République, Robespierre, avec Marcel Gauchet et Jean-Clément Martin. Robespierre, l'homme qui nous divise le plus. Tel est le titre du dernier livre de Marcel Gauchet. L'incorruptible, en effet, a ses admirateurs inconditionnels et ses détracteurs farouches. Autant le dire tout de suite, j'appartiens à la deuxième catégorie. Non que je considère Robespierre comme un monstre. Jean-Clément Martin a achevé de me convaincre dans la biographie qu'il lui consacre que cette image a été fabriquée et légué à la postérité par la propagande thermidorienne. Ce que je pense, c'est que Robespierre a été paradoxalement conduit à l'inhumanité par le sentiment d'humanité. Il n'était pas sans cœur, il débordait d'amour, et le zèle compatissant l'a rendu implacable. Nous sommes tendres pour les oppresseurs, parce que nous sommes sans entrailles pour les opprimés, lance-t-il à la tribune de la Convention. Ou ceci encore, indulgence pour les royalistes, s'écrient certaines gens, grâce pour les scélérats, non, grâce pour l'innocence, grâce pour les faibles, grâce pour les malheureux, grâce pour l'humanité. Et un peu plus loin dans le même discours, la rigueur des tyrans n'a pour principe que la rigueur, celle du gouvernement républicain part de la bienfaisance. Pour le dire avec les mots de Hannah Arendt, la pitié, comme ressort de la vertu, s'est révélée à travers lui, posséder un potentiel de cruauté supérieur à celui de la cruauté elle-même. Voilà donc, brièvement résumé, ma conviction sur Robespierre. Mais je suis bien moins calé que mes deux invités. Alors, je voudrais humblement leur demander si cette conviction tient debout, ou si la lucidité, l'impartialité, la connaissance historique commandent de creuser plus profond et de réhabiliter, au moins partiellement, Robespierre. Jean-Clément Martin.
Écoutez, votre question est extraordinaire. Je n'ai pas la prétention de vous faire changer d'avis en une heure, mais il me semble quand même que il ne s'agira pas pour moi de réhabiliter Robespierre, les choses sont claires, mais de vous répondre sur un autre registre, en commençant quand même par une chose. Parce que vous, vous reprenez le titre du livre de Marcel Gauchet, vous avez raison, il y aurait d'un côté les robespierristes et d'autre côté les anti-robespierristes. Alors, vous êtes incontestablement un anti-robespierriste. Marcel Gauchet, qui est en face de moi, est un anti-robespierriste que je trouve, moi, très robespierriste. C'est de l'amour-haine. Et moi, je ne me retrouve dans aucune des deux catégories. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, pour dire des choses simplement, qui ne me concerne pas. Marc Bloch avait, précisément, on le sait bien, posé une grande question. Robespierriste, anti-robespierriste, arrêtez, mais dites-nous qui est Robespierre. J'aime beaucoup Marc Bloch, mais et je l'admire. Mais je pense que cette question-là est mauvaise parce qu'il n'y a pas que ces deux catégories et parce que la question n'est pas de savoir qui est Robespierre. La question est de savoir ce qu'a fait Robespierre, que ce comment son action a été présentée. Et puis, et c'est certainement un point que nous allons beaucoup discuter, est-ce que Robespierre était tout seul? Parce que, en définitive, voilà, ça c'est quand même la grande question. Ce que vous êtes en train de dire, c'est de dire que les discours de Robespierre qu'on connaît, et on les connaît tous, mais on n'arrête jamais de les lire, ces discours, vous assurez qu'ils ont organisé la révolution, qu'ils l'ont engagé dans des voies. Et j'ai la prétention de dire non, ce n'est pas vrai. Les discours ont été aussi des armes politiques, ont été des arguments tactiques, et qu'ils ont beaucoup évolué, et qu'il est nécessaire de comprendre, mais véritablement là, pragmatiquement, dans les jeux politiques, comment Robespierre, mais avec Danton, Et avec avec Brissot, avec Barrère, avec Biovren, tous personnes qu'on peut évidemment contester. Mais comment ces gens-là, au comité de salut public, ont encadré la violence, et que ça vous plaise ou déplaise, ont réussi à en limiter les effets et à l'organiser autrement. Donc c'est ça la question.
Donc voilà. Donc pour vous, en réalité, Robespierre à limiter la violence, c'est comme ça qu'il faut comprendre ces discours, voire certaines lois, notamment celle sur laquelle nous reviendrons, la loi de Prial, qui institue un tribunal pour punir les ennemis du peuple, qui supprime l'instruction, qui fonde l'acte d'accusation sur de simples dénonciations, qui enlève aux accusés le secours d'un avocat, et qui transforme l'audience en formalité en supprimant l'audition de tiers. Donc tout cela, en effet, vous dites, il faut le comprendre dans le contexte, il s'agissait surtout d'encadrer la violence qui se répandait un peu partout. Une violence anarchique, chaotique, et sans doute beaucoup plus terrible que celle qu'il rapatrie à l'intérieur du tribunal révolutionnaire.
Je vous réponds tout de suite. En deux mots. Et je pense qu'il faut pas. Quand je dis ça, c'est pas pour légitimer la violence. C'est pas pour oublier la façon dont Robespierre va soutenir les massacres de septembre deux mois après. C'est pas pour oublier qu'il a objectivement soutenu les sans-culottes, notamment en Vendée, jusqu'en décembre. Mettons bien les choses à plat. Bon. Là, les violences là, il n'a pas mis les mains, mais il les a laissées faire. Bon. En revanche. On voit bien qu'à partir de janvier 1794, et en plus, surtout, à partir de mars-avril, lui et les autres, il faut vraiment insister là-dessus, sont en train, effectivement, d'empêcher la violence qui a été terrible dans toutes les provinces, de rapatrier Fouché, de rapatrier Tallien, dont on va finir par parler, de rapatrier Barras, en les menaçant de la guillotine, et que la loi de Prérial... Alors, vous avez parfaitement raison, mais cette loi a été déjà adoptée par le comité de sûreté générale et le comité de salut public pour les tribunaux d'Arras et les tribunaux du sud de la France dans le Rhône, et qu'il n'y a rien de nouveau, sauf que là, les députés se rendent compte, et les députés seuls, que cette loi va s'appliquer à eux. Et qu'il y a là quelque chose qui se déclenche quant à la fonction des ennemis du peuple, quand on le regarde en détail, mais je m'arrêterai là. Il y a un flou absolument clair, enfin si j'ose dire, un flou trop grand, vous avez parfaitement raison, mais ce flou va en même temps pourchasser les ennemis de la République dans la guerre telle qu'elle se déroule. On est en guerre, il faudra le rappeler.
Alors, Marcel Gauchet.
Une remarque déjà sur notre discussion telle qu'elle s'engage. Tout se passe comme si nous parlions de Robespierre comme le démiurge de la Révolution. Auquel tout revient, son inspiration, ses actes dont il aurait été le concepteur de part en part. On est très loin de la réalité, et là, je rends hommage à la démarche de Jean-Clément Martin, qui évidemment replace les choses dans un contexte où il n'est qu'un acteur parmi les autres, mais un acteur qui, par rapport à tous les autres, a donné son discours à leur pratique, qu'il n'avait qu'à un niveau beaucoup plus bas, et il est au fond la victime a posteriori du talent avec lequel il a exprimé la révolution dont il l'a mise en discours. Par rapport à ce que disait Jean-Clément Martin, je lui précise tout de suite, je ne me crois ni robespierriste, ni anti-robespierriste. Je pars d'un sentiment qui serait assez voisin du vôtre, Alain, au sens où je pense que, a priori, je viens de la génération antitotalitaire pour laquelle le préjugé à l'égard de la révolution était... On ne peut plus clair, et vous l'avez très bien résumé.
À l'égard de 1793.
À l'égard de 1793, bien entendu. Mais le regard historique qu'on peut porter sur les événements et sur la place qui tient Robespierre oblige immédiatement, dès qu'on y met un peu de bonne foi, me semble-t-il, à relativiser complètement cette image et à mesurer à quel point elle est le produit d'une stratification très complexe, puisque cette stratification est faite aussi des appropriations de Robespierre par des gens qui se veulent les héritiers de la violence révolutionnaire, le léninisme, pour faire vite. Ni robespierriste, mais je ne me sens pas davantage robespierriste au sens où j'aurais à revendiquer une filiation quelconque à l'égard de son inspiration. Mais ce qui m'importait dans ce livre, c'était de prendre la mesure de la signification de ce qu'a été l'expérience révolutionnaire et de la manière dont elle retentit pour nous tous, de façon différente, dans l'espace public aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, il y a dans Robespierre un concentré de la tragédie qu'est la Révolution française, c'est-à-dire une entreprise de fondation prodigieuse qui débouche sur un échec politique. Et Robespierre est l'acteur et le discoureur, le théoricien à sa façon, au travers duquel cette expérience de fondation et cette expérience d'un échec à fonder la République, dans les termes où il parle son expérience, est le plus parlant. Mais en aucun cas, pour moi, il ne s'agit ou de réhabiliter ou d'incriminer. Je crois que, justement, peut-être sommes-nous au moment heureux où nous allons pouvoir sortir de cette dispute qui dure depuis 2 siècles et un peu plus, et arriver à une meilleure mesure de ce que représente dans notre histoire cet événement extraordinaire.
Mais vous dites, Marcel Gauchet, ne pas incriminer, mais d'un autre côté, l'analyse des discours de Robespierre et des actions de Robespierre ne peut pas nous laisser sans réaction. Je lisais, par exemple, dans votre livre, vous parlez de la stratégie utilisée par Robespierre pour éliminer simultanément les indulgents et les exagérés ou les enragés. Et l'on voit se déployer dans son discours et dans ses actes une pensée du complot. C'est-à-dire que la révolution, telle que Robespierre la décrit, ne connaît pas d'obstacles, elle ne connaît que des ennemis. Et ces ennemis sont des ennemis du genre humain. Donc évidemment, on se dit, mais c'est absolument terrifiant. Et ça ne peut que déboucher, du moins dans notre texte, sur une incrimination, d'autant plus que, effectivement, après, il y a le XXe siècle, et qu'on peut, à travers la vie de Robespierre, analyser une mentalité, et se demander, voilà, ce que c'est que le robespierrisme, et s'il ne faut pas, aujourd'hui, être vigilant face à ces résurgences possibles. Marcel Gauchet.
Mais ce dont vous parlez, ce n'est pas le complotisme spécifique de Robespierre.
Non.
C'est
vous êtes d'accord,
la d'accord. Mentalité révolutionnaire.
Absolument.
Dont il est simplement un acteur parmi d'autres, en l'occurrence. Ce qu'il faut comprendre, c'est la raison pour laquelle tout le discours de la Révolution est de part en part, et dès 89, un discours du complot. Et ça, il y a un travail très spécifique à faire sur cette mentalité où, dans une société qui change radicalement, personne ne se connaît, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas une idée précise des actions des uns et des autres, on n'est pas dans la société d'information, c'est le moins qu'on puisse dire, et où l'interprétation en termes de complot, de part et d'autre, car c'est un discours général, est le seul repère pour déchiffrer spontanément les événements. N'oubliez pas que la pensée contre-révolutionnaire va interpréter de bout en bout la révolution comme un complot. C'est le discours général dans lequel tout le monde est pris. Alors, comme il l'exprime, lui, d'une place et dans un langage qui va être retenu par l'histoire, la tendance est d'en faire le paranoïaque en chef d'une révolution, dont il faudrait tout de même nous expliquer à ce moment-là pourquoi elle n'est peuplée que de paranoïaques.
Oui, il n'est peut-être pas le paranoïaque en chef, mais il est le paranoïaque le plus éloquent, et c'est à ce titre qu'on peut, évidemment, on ne peut pas ne pas émettre un jugement. C'est tout ce que je veux dire.
Non, eh bien, là nous arrivons vraiment au cœur de la difficulté qu'il y a à parler d'événements comme ceux-là. Et je ne vois qu'un terme pour en parler, qui est classique, qui est celui de tragédie. Il faut totalement sortir de l'idée que nous avons affaire à des démiurges qui organisent des événements dont ils auraient la maîtrise. Nous avons affaire à des acteurs qui sont pris dans un enchaînement d'événements, de circonstances qui les conduisent à des actes à des actions que nous pouvons juger atroces. Et en effet, il faut les juger. Mais il faut aussi comprendre cet enchaînement sans leur attribuer une dimension maléfique, une volonté du mal qui est tout le problème de la lecture de l'histoire. Et donc je crois que le travail que nous avons à faire, c'est de mesurer ce qu'est le tragique de l'histoire face à un événement comme la Révolution française.
Ah, moi je parlerais plutôt d'une volonté du bien que d'une volonté du mal. Mais Jean-Clément Martin.
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord pour comprendre ce côté tragique des choses, d'autant plus que ça correspond alors parfaitement à la mentalité de la culture générale qu'on va trouver avec le grand essor et la grande importance du roman noir, du mélodrame, des attentes eschatologiques qui sont alors vraiment derrière la toile de fond de la Révolution. Parce que voir la Révolution avec des idéaux rationnels, certes, mais ça repose sur des attentes millénaristes et profondément ancrées dans les émotions les plus traditionnelles. Et si on oublie ça, on ne comprend pas cette tragédie, cette confrontation-là. Sur les complots, je suis tout à fait d'accord aussi pour insister sur sur la généralisation des sentiments de complot. Tout le monde est dans le complot. Et dans le complot depuis 1770. La guerre des farines, on complote. On a tout le temps comploté. Bon, donc, et le plus grand personnage qui va en quelque sorte activer la peur du complot, c'est Marat. Lui, il est imbattable. Bon, donc Robespierre à côté, c'est un petit joueur, si vous me permettez. D'accord aussi sur les enracinements, enchaînements qui les entraînent tous. Moi, j'insiste toujours sur le fait qu'en 1793, ces gens à la Convention, au Comité de salut public, sont en sursis. Ils ont devant eux les sans-culottes qu'ils veulent absolument... Les sans-culottes, pas les enragés. Ils ont réussi à se débarrasser des enragés. Mais les sans-culottes les menacent et ils sont vraiment en sursis. Puis troisième chose, parce que l'histoire de la tragédie se conclut toujours dans le dénouement. Et le dénouement, ce ne sont pas seulement les thermidoriens qui vont tuer Robespierre. C'est un mois après sa mort... quand le Robespierre, qui avait été seulement tyran, devient un monstre. Et là, on rentre dans quelque chose qui est une tragédie monumentale, dont nous ne sommes pas sortis aujourd'hui.
Alors, je vais vous lire une citation qui va vous énerver, Jean-Clément Martin, mais d'un penseur réactionnaire, ça, Nicolas Gomez Davila, un auteur de Maxime, bolivien, colombien, je ne sais plus. Et alors, il a cette phrase, « L'histoire ne serait qu'une nuit d'épouvante si de temps à autre... on ne voyait poindre l'aube d'un thermidor. »
Alors ça, je trouve ça extraordinaire. Ça m'énerve pas, au contraire, ça me plaît beaucoup. Parce que ça fait maintenant un certain nombre d'années, et surtout depuis quelques mois, que je me tue à répéter que c'est parce que nous sommes les dupes de Tallien qui le 11 Fructidor, 28 août 1794, a fait ce coup d'État extraordinaire en disant « Non, Robespierre n'est pas un tyran, non, Robespierre n'est pas un despote, il est un monstre !» Et il a balayé avec Robespierre tous les gens qui avaient fait précisément le coup d'État du 9 Thermidor, tous ses amis, les Barrères et les Billaud-Varennes, les ennemis proches de Robespierre, il les a balayé. Génial. Et comme il a guillotiné en même temps 110 personnes, la gauche radicale républicaine a disparu. Nous vivons toujours là-dessus en croyant que Tallien a raison. Et s'il y a une tragédie, c'est la tragédie de la terreur où la terreur apparaît comme un feu rouge. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On s'arrête avant. Mais Lénine avait peur, il voulait s'auto-thermidoriser pour éviter d'être dépassé. Mais Tallien a gagné. Les discours de Robespierre à côté de l'invention de Tallien, c'est, si j'ose dire, encore en provoquant un peu, pas grand-chose. Chapeau, Tallien.
J'en suis pas tout à fait sûr. Mais Marcel Gauchet, vous avez parlé des circonstances, vous avez parlé de tragédie. Mais je vous cite Saint-Just. Ce n'est pas l'homme qui est méchant, c'est l'oppression qui est méchante. Nous sommes en plein rousseauisme. Les vices n'appartiennent pas à l'homme, mais à l'homme mal gouverné. La servitude est la source de tous les maux du genre humain. Donc la politique, tout d'un coup, se voit assigner une tâche immense, celle d'éliminer le mal et de régénérer l'homme. Mais précisément, dans cette tâche, elle ne peut pas rencontrer d'adversaire légitime. L'adversaire est un ennemi, et l'ennemi est un ennemi du genre humain, puisque précisément, il empêche le bien de se faire. Donc il y a là une logique entraînée par une philosophie. Voilà pourquoi j'ai du mal, personnellement, à seulement parler de tragédie et invoquer sous une autre forme la théorie des circonstances. Marcel Bauchet.
Mais ce qui est une tragédie, c'est cette impossibilité de penser l'adversité politique.
Voilà, absolument.
Là est la tragédie.
Oui, c'est
vrai. Et cette tragédie est celle du monde démocratique. Elle est aujourd'hui, évidemment, privée de sa dimension dramatique, mais elle demeure. Là se situe, à mon sens, l'échec significatif de la Révolution française. C'est l'impossibilité d'aménager un espace politique en fonction des principes fondamentaux qu'elle a proclamés et dont nous sommes les héritiers, nous n'en avons pas d'autres, l'impossibilité de penser un espace de confrontation démocratique. Qui ne peut, l'espace politique, sur la base de ses principes et dans la mesure et dans les circonstances qu'il faut tout de même enregistrer, ne peut déboucher que sur une scène agonistique où il y a les amis et les ennemis. Il n'y a pas d'adversaire politique, il n'y a pas de contradicteur possible. Là est la racine intellectuelle, effectivement, d'une tragédie. Car cette tragédie correspond à une logique des principes que nous continuons d'avouer. Et l'erreur serait de croire que nous en sommes débarrassés. Il y a simplement que nous avons la chance de vivre dans un monde qui s'est considérablement pacifié depuis deux siècles. Mais nous sommes confrontés à la même difficulté. Et c'est cela qui, à mon sens, donne son actualité à l'expérience révolutionnaire dans sa dimension la plus profonde.
Jean-Clément Martin.
Je voudrais rebondir. Vous avez raison, mais moi j'aggraverais encore votre propos, si je puis dire ça comme ça, parce que cette démarche agonistique, on va la retrouver jusqu'en 1815. Pendant tout le directoire.
Mais je vous suis.
On est d'accord. Et pendant tout le directoire, il y a un coup d'État par an, quand ce n'est pas deux coups d'État. Bon. Et le fondateur de cette institution parlementaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui et éventuellement que nous pouvons regretter, c'est Louis XVIII. C'est quelque chose qu'il faut absolument penser. Les députés qui étaient hostiles à Louis XVIII venaient de Vendée. Ils étaient républicains. Il faudra toujours le rappeler. Et la Troisième République républicaine a voulu surtout faire une république sans révolution. Donc il me semble qu'il y a là quelque chose d'extrêmement important. Alors, ce qui s'est passé jusqu'en 1794, je crois que c'est effectivement les difficultés que tous ces gens qui sont peut-être quand même plus adepte de Montesquieu que de Rousseau, à gérer quelque chose qui est un cadre difficile à organiser. Parce que pour prendre Robespierre, parce que nous parlons quand même de Robespierre ici, bon, pour prendre Robespierre, il va abandonner le thème de la régénération avec les autres. Hein. À partir de 1792, on parle plus de la régénération. En revanche, Robespierre est vraiment toujours très attaché à la notion de représentation. Il est absolument contre tout ce qui va être un message trop rapide. Il va toujours être absolument contre les assemblées primaires qui pourraient délibérer trop rapidement. Il sera contre le 9 août 1792 déjà, contre la destitution du roi. Enfin, on pourrait multiplier les choses. Donc, je ne veux pas dire qu'ils réussissent. On est bien d'accord. Hein. Et je ne veux surtout pas dire qu'il n'a pas été pris à son propre piège et sans doute à ses amis à partir du printemps 94, quand il a, avec ses proches, le contrôle entier des institutions parisiennes. Et qu'il fait peur à tout le monde, droite de la Convention et extrême gauche de la Convention. Billaud Varennes et Collot d'Herbois sont menacés d'aller à la guillotine le 8 midi. On comprend que le 9, il soit contre lui.
Oui, mais quand même, il était attaché à la représentation, dites-vous. D'un autre côté, il avait le sentiment de représenter le peuple, voire d'être le peuple. Et là, je rejoins Marcel Gauchet, le peuple pour lui n'était pas une multiplicité, c'était la volonté générale. Le peuple ne pouvait parler que d'une seule voix. Il n'est pas naturel que les hommes, également épris du bien public, soient séparés. Il n'est pas naturel que s'élève une seule coalition contre le gouvernement qui se dévoue pour le salut de la patrie. Voilà le raisonnement de Robespierre, et on sait à quoi ça nous a mené.
Là, il ressort tragique. Il est pour la représentation, et je crois que c'est ce qui le distingue complètement de l'extrême-gauche révolutionnaire sans culotte, mais il ne pense pas à la représentation. Il est incapable de mesurer ce qu'elle implique de distance entre les représentés et le représentant, avec la dialectique que cela inaugure. Il est l'homme de l'identification de la représentation au peuple. Et à partir du moment où il y a cette identification, le peuple étant le siège naturel de la vertu et l'incarnation de la volonté générale, et les représentants par ce jeu identificatoire étant eux-mêmes les porteurs et de la vertu et de la volonté générale, tout ce qui s'oppose devient impensable et ne peut procéder que d'une volonté mauvaise, complotiste, effectivement, parce qu'ils n'ont pas l'air, ils n'ont pas l'air méchants, donc ils le sont, en fait, en le cachant, ils complotent, et ils complotent en fonction d'intérêts qu'on peut ramifier à l'infini, et à partir de là, l'espace politique devient celui d'une lutte entre les amis du peuple et ses ennemis. Et c'est là est la tragédie robespierriste type.
Une tragédie destinée quand même à un certain avenir, qui a eu une postérité, parce que on pense forcément, en vous écoutant Marcel Gauchet, à ce qu'a été l'expérience totalitaire. Alors il faut pas déduire Lénine ou Staline de Robespierre, bien sûr ce serait stupide, n'empêche que comme l'écrit Hannah Arendt, dans la pensée totalitaire, le monde n'est pas animé par une pluralité de forces, il n'en connaît que deux. Voilà. Et donc, on retrouve, si vous voulez, cette opposition, cette dichotomie, cette gigantomachie dans le communisme.
Oui,
Marcel Gauchet.
Mais avec toutes les nuances qu'il faut apporter dans les expressions historiques. La différence simple, c'est que ce qu'on pourrait désigner de manière très anachronique comme des potentialités totalitaires dans la pensée robespierriste, sont en même temps sans traduction institutionnelle. Ce que Lénine et Staline ajoutent à Robespierre, c'est le parti révolutionnaire d'avant-garde, et ça change tout. Lui, il n'a pas de parti, il n'a pas de machine, et ce qui fait qu'il peut être balayé du jour au lendemain sans aucune espèce de résistance. Ça fait une grande différence. Mais ce que cette expérience et cette filiation nous apprennent, c'est à mettre l'accent sur ce qui est le problème du monde démocratique, qui est la maîtrise du pouvoir. Et ce mystère d'une séparation du pouvoir et de la société qui est indispensable pour que la société se reconnaisse dans le pouvoir et le contrôle. Alors que là où est la potentialité totalitaire, encore une fois, en mettant beaucoup de précautions dans cette expression, c'est dans l'incapacité d'instaurer ce jeu mutuel de distance et de contrôle. Un pouvoir qui s'approprie la légitimité populaire ne peut être qu'un pouvoir qui ne voit dans le peuple que des ennemis du peuple.
Jean-Clément Martin.
Alors là-dessus, il faut effectivement revenir à ce qui s'est effectivement passé. Et il est certain que là, la question de la définition du peuple et du rapport au peuple est absolument centrale et extrêmement importante. Mais il me semble qu'il faut quand même prendre quelques précautions. La première précaution, c'est de voir Robespierre comme un révolutionnaire véritablement attaché à un peuple unique. Vous avez raison dans vos citations. Ce qu'il redoute, ce sont les factions. Mais à ce moment-là, vous allez m'expliquer pourquoi Robespierre, et il le dit à plusieurs reprises, est pour la tolérance religieuse. La liberté des cultes, c'est quand même lui qui l'impose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer là-dessus. Bon, c'est un problème considérable vis-à-vis des sans-culottes qu'il va accuser d'athéisme. Bon, donc, on a affaire à quelqu'un qui va à vouloir bâtir une société. Alors, idéal, sans doute. Et c'est sans doute idéal au sens de l'idée, hein. Déiste, je sais pas, mais avec une vision spirituelle indiscutable. Bon. Et il me semble que c'est aussi là-dessus qu'il bute. Bon. Alors ça, c'est un premier point. Pardonnez-moi. Moi, il me semble aussi, la deuxième chose, c'est dans son rapport à la loi et au pouvoir, Robespierre est tout sauf un tyran au sens strict. Il le dit lui-même. Si j'étais un tyran, il y a bien longtemps que je vous aurais envoyé en prison. Bon, on va l'accuser le 9 thermidor à 11h du matin. Il va rester jusqu'à 6h du soir, assis sur son banc sans rien dire. Vous parlez d'un tyran. Bon, c'est-à-dire que là, à l'évidence, non, il n'a pas les moyens.
Il n'a pas les mêmes, mais il voudrait bien les avoir quand même.
Non, il peut
pour,
pas. Non,
pour
il
supprimer,
est... non,
pour
il
supprimer
est...
tous les ennemis du
non,
peuple.
Non, non, il est profondément légaliste. Mmh. Et alors, où je vous accorderai quelque chose, qui est pour moi un mystère, c'est sa haine du peuple anglais. Alors ça, c'est étonnant. Bon, ça haine du peuple anglais. Est-ce que c'est ses origines au moment de la guerre de 7 ans? J'en sais rien. Bon, mais il est certain que là, il y a quelque chose qui se joue. Mais sur l'opposition aux ennemis du peuple, c'est pas aussi simple que ça. Et quand est-ce que le peuple le suit? La réponse est non. Hein. On est bien d'accord. Quand il est envoyé à la guillotine le 10 thermidor, les gens qui le voient passer disent « foutu maximum » et sont bien contents parce qu'il a baissé les salaires qu'il soit guillotiné.
Oui, mais vous dites qu'il est légaliste. Dans son discours sur le procès du roi, il dit ceci « Nous invoquons des formes parce que nous n'avons pas de principe. Nous nous piquons de délicatesse parce que nous manquons d'énergie. Nous étalons une fausse humanité parce que le sentiment de la véritable humanité nous est étranger. » Donc il y a une sorte, au moment du procès du roi, une véritable révolte contre les formes qui trouvera son apothéose dans la loi préalable. Et là, je voudrais aussi dire à Marcel Gauchet qu'il me semble que le grand problème de la Révolution, c'est d'accepter la pluralité. La pluralité, le peuple ne peut pas être pluriel. Voilà. Et Robespierre incarne ça très bien du fait, encore une fois, de son éloquence prodigieuse.
Mais il faut mesurer l'ancrage de cette idée. Elle se déduit, en quelque sorte, des premiers principes. À partir du moment où on pose, au départ, comme les principes fondateurs, que doit régner la liberté et l'égalité qui se traduit dans la souveraineté du peuple. Cette souveraineté du peuple forme une volonté générale. Cette volonté générale, elle est unique par essence. Elle exclut la pluralité parce qu'elle est faite d'une chose, l'identification, ce que Robespierre appelle la vertu, qui n'est pas la vertu au sens de la moralité personnelle. C'est la vertu au sens civique de l'identification de chacun à l'intérêt général. Cet intérêt général étant un, et chacun des individus devant être identifié à ce principe un, il n'y a aucune place ni pour la pluralité, ni surtout pour la contradiction. Une fois qu'elle est formée, cette volonté générale, tout doit s'incliner devant elle. Et là, il y a effectivement le débouché sur une philosophie autoritaire du pouvoir qui est indiscutable dans son esprit. Même s'il est, pour lui, en bon rousseauiste, ça passe par la loi. Et il est légaliste jusqu'au bout, y compris le 9 thermidor.
Oui, les lois de Prairial, la loi de Prairial, enfin, quand même.
Alors, oui, alors, mais justement, ne faisons pas ni du procès du roi, ni de la loi de Prairial, sa vision de la loi en général et de la démarche politique. Parce que là se pose une question essentielle devant laquelle tous les révolutionnaires sont complètement désarmés. Que fait-on de ce roi dont nous avons hérité et que nous avons destitué? Il est là. Alors, est-ce qu'il faut le penser en tant que citoyen ordinaire à l'intérieur du corps politique, ou est-ce que nous sommes condamnés à le penser en termes d'extériorité à l'espace politique? C'est ce que plaide Robespierre, mais évidemment qu'il n'en fait pas l'alpha et l'oméga de ce que sont les rapports politiques et juridiques
non,
en général.
C'est vrai, il n'empêche que ce qu'il dit dans ce discours au procès du roi, disons, se perpétue dans la loi des suspects, dans la loi de Prairial. Il y a chez lui une hostilité aux formes, et ça va plus loin. Vous le présentez l'un et l'autre comme l'homme qui s'est identifié aux droits de l'homme, et d'ailleurs qui allait être, et du citoyen. Il refusait même la division entre citoyens passifs et citoyens actifs. Il avait une idée très haute de l'égalité, mais il se croyait obligé de suspendre, d'abolir un temps les droits de l'homme pour pouvoir les réaliser, les réaliser demain. Donc c'était ce qu'il appelait la tyrannie de la liberté. Oui. Marcel Lochet, donc
oui,
c'est...
Là est...
Le despotisme.
Le despotisme.
Et c'est pas la même chose.
Ah, pardon.
Non. Ah non, c'est pardon, pas non, la même chose. Là, je demande pardon, juste.
Non. Le despotisme est régulier. Il obéit à des formes, tandis que la tyrannie, c'est l'arbitraire d'une personne qui est qui occupe la place du pouvoir.
J'ai peur de vous contredire.
Mais bon.
Jean-Clément Martin.
Écoutez, là, il y a quelque chose qui est effectivement extrêmement important. C'est, moi, j'ai l'impression, en vous entendant, que vous gommez un aspect auquel moi je tiens beaucoup, c'est les querelles politiciennes. Il n'y a pas, pour moi, de politique sans de politique aérie. Excusez-moi de dire comme ça. Bon, et le procès du roi, vous avez raison de le citer. Il est l'orateur qui va avoir deux discours imprimés, c'est important. Sauf que, quand même, quel est l'accueil de ces discours? Ben, il est mauvais à l'accueil. Hein. Tous les conventionnels, même Marat, hein, sont hostiles à Robespierre. On fait un procès, on veut le juger. Qu'est-ce qui s'est passé quand Robespierre et Saint-Just vont proposer qu'on exécute le roi sans jugement? Ils sont à la remorque là des revendications de l'ultra-gauche qu'on connaît précisément, qu'on pourrait qualifier vraiment du vocable des enragés. Et c'est dans ce jeu-là, entre sans-culottes, enragés et montagnards, qu'il faut interpréter les discours de Robespierre et de Saint-Just. Et les députés disent non, il y aura un procès. Et puis quand même, moi j'ajouterais que pratiquement la moitié des députés, hein, moins 44, vont voter contre la mort du roi, dans un climat absolument hostile à ces gens qui ont un courage fabuleux en disant « je ne vote pas la mort du roi parce que je suis contre la peine de mort ». Je trouve quand même que c'est...
Très courageux.
C'est extraordinairement courageux. Bon, et là, il y a quelque chose, moi, qu'il faut prendre en considération. Quel est le rôle de Robespierre là-dedans? Excusez-moi, il est très faible. Quant à la loi des suspects, il y a deux façons de voir les choses. La façon qui fait peur à tout le monde... On va envoyer tout le monde en prison. Puis là, ce qui est en dessous, c'est que au moment où on prend la loi des suspects, on supprime l'autonomie des sections, on dit surtout aux assemblées primaires, vous devez rendre des comptes à la convention sous 10 jours, et on est en train là d'entamer le processus d'abandon de la liberté des sans-culottes, et 2 mois plus tard, il n'y aura plus de démocratie en France, plus d'élections, et c'est le gouvernement révolutionnaire qui s'impose. Et c'est Billaud-Varenne qui le fait. Donc, si vous voulez, cette histoire-là, c'est à voir dans cette lutte entre des groupes et des factions. C'est cette espèce de façon de prendre le pouvoir qui est extraordinairement biaisée.
Mais je vais quand même en venir à peut-être une question qui vous divise, celle de la terreur. Vous avez écrit un livre tout récemment, « Les échos de la terreur, vérité d'un mensonge d'État », Jean-Clément Martin. Et je vous citerai pour commencer Edgar Quinet, cette fois-ci. « Dans la terreur, deux époques coexistent monstrueusement unies. La logique sentimentale de Jean-Jacques prend pour instrument la hache de la Saint-Barthélemy. » Et cette logique sentimentale, elle a beaucoup joué, c'est ce que dit Arendt sur la pitié, le zèle compatissant, car ce n'est pas la compassion, écrit-elle, qui se propose de modifier les conditions de vie dans le monde pour alléger la souffrance humaine, mais si elle le fait, elle évite les processus de persuasion, de négociation et de compromis interminables et fastidieux qui sont ceux du droit et de la politique. Voilà pour les formes, et prête sa voix à la souffrance en soi pour exiger une action directe et rapide, c'est-à-dire l'action par les moyens de la violence. Terreur, il y a bien eu.
Il y a eu, et le mot même n'est pas un mot que nous appliquons a posteriori
non.
À des événements qui ne seraient sans rapport. C'est le langage des acteurs. Elle est revendiquée. Alors, il y a un débat technique que nous pourrions mener.
Il n'est pas technique.
Mais sur la fameuse terreur à l'ordre du jour, qui est un débat compliqué, il faudrait entrer dans des détails qui ne sont pas le lieu.
Une minute.
Mais ce thème est repris sans être assumé légalement par la Convention. Hein. C'est un fait très important, effectivement. Mais la terreur, c'est d'abord un aveu de faiblesse de la Révolution et du personnel révolutionnaire. C'est la réponse désespérée à une situation qui paraît très mal engagée, si ce n'est quasiment perdue d'avance. C'est un élément essentiel. C'est le perdant radical, très beau titre d'Enzensberger,
oui.
Qui a pour arme ultime la terreur. Donc c'est un élément.
Pourquoi le perdant ?
Le perdant, parce que les acteurs qui mettent en avant la terreur se pensent menacé de perdre dans une situation où le rapport de force leur est totalement défavorable. C'est un élément capital.
Mais il aurait défavorable des armées étrangères?
Bien sûr, au premier chef, d'une situation politique où ils se savent très bien en minorité.
Ah oui, d'accord.
Il y a cette conscience des acteurs de quelle est leur place dans le processus politique global. Faut voir ce que c'est que la France en 1793. Ils sont très loin de maîtriser. Ils essayent de maîtriser. La terreur est l'instrument d'une maîtrise. Ça n'est pas comme le fantasme politique totalitaire l'a instauré depuis, une sorte d'instrument conscient d'un projet de domination par un pouvoir qui tient tous les fils. C'est le contraire. Donc, mesurons cela. Et Robespierre, il faut le souligner, à mon sens, doit, au-delà de la légende thermidorienne, qui va évidemment amplifier le phénomène, est celui qui, a posteriori, et bien après que la terreur soit de fait soit enclenchée, essayait de donner une théorie de la terreur. Et c'est ce langage, en particulier en érigeant la terreur en l'associant à la vertu et en faisant son instrument, qu'il va donner à la postérité l'image d'un pouvoir qu'il aurait exercé, alors qu'il ne fait qu'après coup, essayer de donner un langage à ce qui n'en a pas dans le moment où cela s'institue.
Et ce langage, c'est si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur, la vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante, Saint-Just, dans ses institutions républicaines, écrit, lui, un gouvernement républicain à la vertu pour principe, sinon la terreur, que veulent ceux qui ne veulent ni vertu, ni terreur.
Alors, mais ça, si vous me permettez un mot, c'est une doctrine a posteriori et ça n'est pas un projet a priori. C'est là-dessus que se joue la moitié des équivoques sur l'interprétation du phénomène terroriste dans la Révolution française.
Jean-Clément Martin.
Je voudrais revenir, je suis assez d'accord avec vous sur quelques points. Un point fondamental et que vous avez soulevé, c'est effectivement cette faiblesse du gouvernement de la Révolution, de la faiblesse des conventionnels, grosso modo jusqu'en janvier, février 1794. On ne le dit jamais assez. Moi, j'ai toujours insisté sur cette faiblesse d'État qui a fait que ces révolutionnaires devaient s'allier de gré, et surtout de force, avec les sans-culottes, Hébert, Ronsin, etc. Parce qu'autrement, ils ne pouvaient pas s'en sortir tout seuls. Bon. Et vous avez parfaitement raison, pour cela que le 5 septembre 1793, allons très vite, lorsque les sans-culottes vont défiler à la Convention pour dire on veut la terreur à l'ordre du jour. On ne sait pas de quoi. Personne ne sait ce que ça veut dire. Bon. Barrère, à la fin, dit les félicite et dit brave sans-culottes, c'est très bien, vous aurez une armée révolutionnaire. Sans tribunal, sans guillotine. Toujours sous le contrôle de la Convention. Bon. Et au bout du compte, si on le dit à toute vitesse, les conventionnels qui ont dit tous à l'unanimité, sauf deux qu'on connaît, qu'il n'était pas question qu'une loi de sang soit mise en application, qu'il n'était pas question d'accepter que la terreur soit instituée en régime, laisse un flou, alors coupable, ça c'est une évidence, hein, un flou coupable.
Et intéressé.
Parce que en envoyant les sans-culottes en Vendée, les Vendéens, les brigands de la Vendée vont être exterminés et les sans-culottes vont être tué aussi. En décembre, la menace de droite et la menace de gauche ont disparu. Donc, moi, je pense que il y a
la menace de droite,
c'était les royalistes de la Vendée.
Et la menace de droite aussi, c'était la menace de gauche, c'était la menace de droite, c'était les indulgents. Donc, c'était aussi Camille Desmoulins.
Je vous demande pardon. Non. Et le 3 décembre 1793, qu'est-ce que fait Danton? Danton, qu'on présente toujours autrement, dit je veux que la terreur soit l'ordre du jour. Un, ça prouve qu'elle n'y était pas, oui. Et deux, qu'il la réclamait quand même. Alors, donc, on est là dans des jeux compliqués. Alors, c'est vrai que là, j'ai pas envie de rentrer dans tout ce détail-là. Bon, mais on est bien là, dans quelque chose qui est extrêmement complexe. Un mot, quand même, pour terminer. Il faut prendre Robespierre au sérieux, quoi qu'on en pense. Le 8 Thermidor, dans son discours, il va dire à deux fois qu'il est contre le régime de terreur. Et c'est sérieux. Parce que il voit bien que les autres ont lancé les conspirations des prisons pour lancer un processus incontrôlable d'exécution. Et son discours du 5 février que vous citiez tout à l'heure sur l'alliance entre terreur et vertu et le despotisme de la liberté, c'est, alors excusez-moi, c'est pour moi, j'y vois un écho d'une des pensées de Pascal, entre force et justice. Bon. Et il y a là quelque chose qui joue, Matinée de Montesquieu, qui dit « le despotisme emploie la terreur ». Et que dit Robespierre exactement? Il dit « les hommes qui n'ont pas la vertu ne doivent pas employer la force, et il faut qu'il y en ait quelques-uns seulement qui acceptent de se sacrifier ». Alors on peut discuter beaucoup sur le sacrifice, hein, mais quelques-uns seulement qui aient le courage de se sacrifier pour exercer des mesures terribles, donc la fameuse terreur, inspirée des despotes, pour la liberté.
Bien sûr.
Et voilà. Et là, on peut effectivement dire qu'il met la main dedans. Mais il se rend compte que c'est le piège, et le 9 Thermidor, il reflue, sauf qu'il a mis tellement d'ennemis contre lui de tous les bords qu'il a perdu.
Vous êtes d'accord avec cette vision des choses, Marcel Gauchet?
On peut ergoter sur les détails. Et effectivement, le discours du 8 Thermidor est entre autres pour se dédouaner.
Dédouaner de
alliances politiques qu'il a été contraint de mener. Au fond, il se dissocie de ceux, il essaye de reporter la charge de cette fameuse terreur sur d'autres que lui, alors que eux mettent tous leurs efforts à la lui attribuer pour aller.
Mais d'un mot, oui, je serais assez d'accord. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que, pour moi, il faut vraiment s'interroger pourquoi le 9 Thermidor? Parce que c'est la veille du 10. Bon. Et ce qui est quelque chose d'important, le 10 Thermidor, Barra et Viala devaient entrer au Panthéon, grande fête, 200, 300 000 personnes que Robespierre aurait présidé. Il avait tous les pouvoirs dans Paris. Les Fouché, les Tallien, les Barras avaient vraiment une crainte. Et, à mon avis, vous avez raison, d'être pris, parce que la garde nationale était sous le contrôle de Robespierre, les enfants des écoles de Mars aussi, etc. Le président du tribunal révolutionnaire était Dumas, il n'y a pas de problème. Donc, la crainte que le 10, il y ait une épuration.
Ah bon?
Eh ben oui!
Ben c'est très intéressant, un homme qui voulait mettre fin à la terreur et qui préparait une épuration.
Mais je veux pas la contradiction.
Ah bon?
Non! On est dans la politique!
Ah d'accord.
On est dans la politique!
La politique au sens révolutionnaire.
Et en même temps là, que voulez-vous? Il a la fête de l'être suprême et de la nature, hein, de juin, est considérée par beaucoup de Français comme la possibilité de la réouverture des églises et qu'effectivement, on est rentré dans une tolérance religieuse.
Religieuse.
Donc, votre lecture à vous, avec le respect que je vous dois, vous devez aussi la confronter avec ce que pensait le peuple ordinaire des campagnes, qui finalement se disait que ce jour de Pentecôte de la fête de l'être suprême et de la nature, c'était peut-être l'amorce d'un changement, et beaucoup de gens le pensaient.
Peut-être, mais il est vrai aussi que pour Robespierre, la politique était le théâtre où se déroule une lutte gigantesque qui décide des destinées du monde et marquera le triomphe absolu et définitif de l'un des deux génies contraires se disputant l'empire de la nature, le crime et la vertu. Donc ça laisse peu de place à la délibération collective, Marcel Gauchet.
Mais il nous reste le fait qu'au travers de tout cela, s'est joué l'événement fondateur sur lequel reposent nos démocraties. Nos démocraties européennes sortent d'une tragédie dont Néanmoins, nous recueillons le legs et dont nous avons aujourd'hui à penser rétrospectivement ce qu'ont été les impasses terroristes du moment inaugural.
Non, mais il y a le legs de la Révolution, mais il a fallu.
Donc on comprend.
Il a fallu à la démocratie. Il a fallu que la démocratie se dérobespierrise.
Oui. Non, ça n'est pas le mot.
Marcel Gauchet.
Ça n'est pas le mot. Il a fallu, au fil d'un processus très compliqué, que la démocratie puisse recueillir l'héritage robespierriste et le couler dans un autre mode d'organisation collective et dans une autre pensée des pouvoirs. Pensée qui est très loin d'ailleurs d'être claire dans l'esprit encore des démocraties d'aujourd'hui, qui d'une certaine manière, sur un mode beaucoup plus tranquille, retrouve des questions très semblables. Parce que, y compris le problème de la vertu, il est déplacé. Mais à partir du moment où vous posez les droits de l'homme au départ, qu'est-ce que vous en sortez comme lecture des faits collectifs? Nous voyons bien qu'aujourd'hui, le problème du mal continue d'agir dans nos sociétés, qu'elles ont beaucoup de mal à le traiter autrement que par une persécution moralisatrice qui n'implique plus de guillotine, mais qui, dans son inspiration, retrouve bel et bien les chemins qui se sont joués dans la Révolution française. Donc, il n'avait pas totalement tort de grandir les enjeux de ce qui était en train de se passer en 1793-1794.
Oui, sans compter.
Un dernier mot.
Oui, sans compter qu'on est quand même dans un flou, même idéologique, absolument considérable, et qu'il faudra vraiment quand même attendre une bonne centaine d'années pour que ces droits de l'homme s'affinent. On le voit bien, puisque notre trilogie Liberté, Égalité, Fraternité, c'est 1848.
Bien, donc dans 100 ans, je consacrerai une émission à cet affinage. Je vous le promets, Jean-Clément Martin. Je rappelle le titre de votre dernier livre, donc Les échos de la terreur, vérité d'un mensonge d'État, 1794-2001. Il est publié chez Belin et votre Robespierre, votre biographie, La fabrication d'un monstre, est aujourd'hui disponible dans la collection Timpus. Marcel Gauchet, vous venez de publier chez Gallimard, Robespierre, L'homme qui nous divise le plus, dans la collection L'esprit de la cité. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre La question du politiquement correct. Mes invités seront Géraldine Smith et Adam Nociter. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.